Super, Nicolas Sautrou, bonsoir, ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio Maria France.
Bonsoir chers amis, bonsoir Olivier, bonne fête de Sainte-Catherine Labourée à tous les auditeurs. Dieu tellement vivant en nous, il habite en nous, le Christ, le Verbe habite en nous et il est vivant. Alors je dois d'abord répondre à une demande que j'ai reçue par SMS, le titre exact de ce livre que nous sommes en train de commenter, un chapitre seulement, c'est « Le signe du Temple » avec un très important sous-titre « De la présence de Dieu ». Et ce livre date de 1942. Voilà. C'est un petit livret d'une soixantaine de pages. Alors, tout en étant plein de respect pour le cardinal Danielou, je dois confesser que je vous ai donné les meilleures pages de tout le livre. Si vous pensez qu'il est intégralement du niveau de ce que nous avons écouté la semaine dernière, vous risquez d'être un petit peu déçu lorsque vous voudrez le parcourir de A à Z. Alors, dans cette évocation du mystère du Temple, nous avions retenu le chapitre sur le Temple mystique et nous en étions vraiment à cette présence de Dieu en nous. Cette présence de Dieu au centre de notre âme n'est pas une réalité immobile. Dieu tellement vivant. Dieu est vivant en nous. Dieu n'est pas comme un rocher planté là au fond de notre cœur. Dieu vit sa vie en nous, Dieu communique sa vie en habitant en nous. Et la façon dont le Père Danielou exprime cela, c'est sous le mot de la venue, de l'avènement, ou autrement dit, de l'avant. C'est une venue toujours nouvelle. Dieu ne cesse de venir en nous alors qu'il habite en nous. C'est le mystère divin. Et cette venue, c'est une génération perpétuelle du Verbe. Le Père engendre le Verbe dans notre âme. C'est le mystère de la nativité du Verbe dans les âmes. Alors que toute chose était dans le silence, la sagesse est descendue parmi nous. La naissance du Verbe dans nos âmes, le Noël du Verbe dans notre âme. C'est sur cela qu'il faut méditer quelques instants, alors que nous nous préparons à la célébration liturgique de Noël. Il y a une nativité qui ne cesse pas de s'accomplir dans la mesure où nous accueillons la descente, l'avènement du Verbe en nous. Et notre méditation va un peu se tourner vers les conditions dans lesquelles s'accomplit cette nativité du Verbe en nous. C'est dans la nuit qu'il naît. Dans la nuit de la ténèbre divine, le Père engendre le Fils. Le Père profère le Verbe de toute éternité. C'est dans le silence originel que le Père profère la parole unique. Alors pour ceux qui sont des connaisseurs, c'est une citation implicite de Saint Jean de la Croix. Oui, Jean Danielou aime beaucoup Saint Jean de la Croix et il l'a exceptionnellement bien compris. Et Saint Jean de la Croix nous dit « Le Père n'a jamais prononcé qu'une seule parole, qui est son Fils, le Verbe, et cette parole, il la prononce dans un silence éternel. » C'est dans un silence originel que le Père engendre le Fils et qu'il parle la parole unique. Donc c'est dans le silence en nous, c'est pour ça qu'il y a une valeur possible du silence intérieur, dans la mesure où le silence permet la génération du Verbe dans notre cœur. C'est dans le silence de la nuit de Bethléem que le Verbe naît à son existence historique. Et tout cela est porteur d'une grande vérité spirituelle. C'est aussi dans la ténèbre de l'âme qui est inconnaissable à elle-même, dans ce centre où il n'y a plus d'image, où il n'y a plus d'opération, dans le silence total et divin, c'est dans le recueillement de toutes les forces de notre âme, dans le centre de notre âme, qui est la fenêtre ouverte sur Dieu, qui est la racine profonde qui plonge en Dieu, c'est dans le silence de la nuit que le Verbe est engendré dans l'âme. Voilà pourquoi il y a une recherche de silence, il y a une recherche de recueillement, il y a une recherche de descente dans la racine la plus profonde de notre être, là où nous pouvons puiser la vie même de Dieu. Voilà pourquoi il est si essentiel de célébrer Noël la nuit, de célébrer Noël alors que le silence de la nuit enveloppe chacune de nos églises, un silence qui est devenu un peu relatif pour les églises de nos cités, pour les églises de nos banlieues, mais néanmoins une forme de silence, une activité réduite grâce à la nuit. Pour éclairer tout cela, le cardinal Danielou nous offre une citation de Jean Tolère. Comme pour Ruysbroeck, nous sommes face à un mystique du XIVe siècle, un dominicain, né à Strasbourg en 1300 environ et mort à Strasbourg en 1361. C'est lui aussi un disciple Descartes, de Maître Eckhart, qui lui un petit peu, qui est né un peu plus tôt. Et comme Ruysbroeck, c'est la mystique rhéno-flamande. Mais une mystique rhéno-flamande qui est totalement dans l'orthodoxie et qui nous garde dans la vérité de l'Évangile. Alors voici cette citation de Tolère qui éclaire ce mystère de la nativité de Jésus dans nos âmes. L'homme intérieur, dit Jean Tolère, noble et grand, est venu du fond très pur de la divinité. Pourquoi? Parce qu'il est fait à l'image de Dieu. Il est fait à l'image de celui qui est le plus noble et le plus spirituel de tous les êtres, c'est-à-dire Dieu. Voilà pourquoi il est appelé à rentrer dans ce fond d'où il est sorti pour y devenir participant du bien de Dieu. Si quelqu'un pouvait, au-dedans de lui-même, trouver, connaître et contempler Dieu tel que Dieu lui-même s'est établi, caché mystérieusement au fond de l'âme, à coup sûr, celui-là serait heureux. Celui-là serait heureux. À condition donc de descendre au-dedans de soi-même et de pouvoir rencontrer Dieu là où il habite vraiment, au plus profond de notre être. Et comme le dit Jean Tolère, caché, Dieu est un Dieu caché. L'Ancien Testament nous dit souvent cela, tu es un Dieu caché. Alors il y a le côté un peu négatif, que Dieu est tellement grand, tellement infini, que nous avons du mal à le comprendre, à le connaître, à le cerner. Et il y a le côté plus positif, qui est que Dieu accepte de se faire tout petit pour comme se cacher au fond de notre cœur. Et qu'il est caché en étant bien là où il est dans notre cœur. Néanmoins, il faut descendre en nous pour qu'ait lieu la bienheureuse rencontre, la béatifiante rencontre. Et cela nécessite de dire non à l'extérieur, de dire non à toute une partie de l'extérieur, pas à tout l'extérieur de nous, mais à une partie, la partie qui va empêcher la bienheureuse rencontre. L'homme détourne alors le regard intérieur de son âme et le répand à l'extérieur, lorsqu'il est trop extérieur. Alors il se disperse, il s'égare sur les créatures. Mais pourtant, il est ramené par Dieu. Il est sollicité par Dieu, qui est présent dans son propre fond, dans l'intime de son âme. Voilà ce qui déclenche la joie spirituelle chez Jean Danielou, c'est cette certitude de foi que nous sommes sollicités par Dieu, que véritablement il frappe à la porte de notre âme. Bien sûr, l'histoire de la vraie nuit de Noël, l'histoire historique de la vraie vie de Noël est un peu triste, puisque il a frappé à la porte et il n'a été reçu par personne. Il finit dans la crèche, dans l'étable, il finit dans la caverne de Bethléem parce que personne ne lui a ouvert sa porte. Nous demandons au Seigneur de ne surtout pas vivre le même drame, la même tragédie qui consiste à laisser le Seigneur Jésus passer, à le laisser à l'extérieur et à refuser de l'accueillir. Parce que nous sommes sollicités par lui, et une des manières pour le Christ de solliciter notre accueil, c'est la célébration de Noël. C'est la célébration liturgique de Noël, où toute cette vérité de l'Évangile, toute cette vérité tellement concrète, des conditions précises de sa naissance, doit nous réveiller, doit nous donner à nouveau une envie particulière d'ouvrir la porte de notre âme pour que la naissance du Verbe ait lieu en nous et qu'il y ait une nouvelle habitation, une présence plus intense du Seigneur Jésus. Visiblement, Jean Danielou a beaucoup aimé cette mystique réno-flamande, mais une des choses qui est la plus remarquable dans sa spiritualité, c'est sa dévotion à la Vierge Marie. Lui, le très grand intellectuel, l'homme prestigieux, l'homme reconnu, l'homme qu'on pourrait presque qualifier de mondain, tellement il était accueilli sur les plateaux de télévision et dans les émissions de radio et pour faire des conférences, des colloques, c'est une personnalité mariale. C'est un petit enfant devant la Vierge Marie, vers laquelle il ne cesse de se tourner pour lui demander, avec la prière de son maître spirituel Léonce de Grandmaison, de garder son cœur simple, pur et limpide comme une source d'eau fraîche. Alors il se tourne vers la Vierge Marie pour terminer sa méditation sur le temple mystique et il lui dit « Ô Vierge Marie, recueillez toutes les puissances de mon âme. Vierge Marie, rassemblez-moi au centre de mon âme. » C'est une très belle expression des choses. Rassemblez-moi au centre de mon âme. Un mot tout simple. Être rassemblé par quelqu'un d'autre pour être unifié. Et ce quelqu'un d'autre, parce qu'il s'agit d'être rassemblé en Dieu, n'est pas Dieu à ce moment-là, parce qu'il s'agit d'être rassemblé dans le Saint-Esprit, dans le Fils, dans le Père. Alors nous demandons à quelqu'un d'autre que Dieu lui-même, et nous demandons à la Vierge Marie, « Rassemblez-moi au centre de mon âme. » Dans le silence de tous les désirs, dans la nuit de toutes les images, oui, parce que les images sont un obstacle à la prière contemplative, « Faites de que mon âme s'écoule en elle-même, jusqu'à ce centre mystérieux où va naître le Verbe. » Je me permets de redire la phrase Vierge Marie, faites que mon âme s'écoule en elle-même jusqu'à ce centre mystérieux où va naître le Verbe. C'est la prière du temps de l'Avent tournée vers la Vierge Marie pour lui demander que nous descendions là vers ce centre mystérieux, pas seulement pour assister à la naissance du Verbe en nous, mais pour l'accueillir, pour la rendre possible. Faites que mon âme, ensuite, s'écoule tout entière dans le Verbe, qu'elle rentre dans l'unité de la vie trinitaire, qu'elle se perde entièrement, qu'elle se laisse entièrement faire, qu'elle se transforme en vous, ô Verbe de Dieu. Voilà, c'est cela, la spiritualité complète avec Jésus et Marie, Vous avez entendu que la prière qui commence en étant une prière à la Vierge Marie se termine comme une prière au Seigneur Jésus. Finalement, la Vierge Marie, dans le cours de la prière, est arrivée à tourner le cœur du Père Danielou vers le Seigneur Jésus. Et ceux qui connaissent bien Sainte Élisabeth de la Trinité voient l'extrême proximité entre ce qu'écrit Jean Danielou et les écrits de Sainte Élisabeth de la Trinité. Il a vraiment été façonné par ces lectures de Sainte Élisabeth de la Trinité. Ô mystère du Verbe présent dès l'origine, par qui tout a été fait, et qui vient aujourd'hui une fois de plus dans mon cœur. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, ce qui peut être transformé en « et le Verbe s'est fait chair, et il est venu habiter en mon cœur ». Aujourd'hui, une fois de plus, et le jour de Noël, la nuit de Noël, ce sera encore plus vrai, le Verbe se fait chair. Et en venant habiter dans mon cœur, nous savons que le Verbe de Dieu me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, parce que ce qu'il me communique de sa vie, c'est une vie filiale, et il me communique même sa filiation elle-même. Il m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la prière s'achève comme une prière à l'enfant Jésus, au tout petit bébé de la crèche, à l'enfant Dieu. Jésus, attirez-moi en ce centre de mon âme. Rendez-moi présent à votre naissance. Le ciel est là, tout entier rassemblé, comme à Bethléem. La Vierge Marie, inclinée avec les anges, Saint Joseph, tous les saints. Tous vous adorent qui descendez pour nous, qui descendez en nous, qui descendez parmi nous. Prière extrêmement parfaite pour la nuit de Noël. Pouvons dire merci à Jean Danielou d'avoir accepté de nous partager ainsi sa prière à la fois mariale et totalement tournée vers le Christ dans la nuit de Noël, dans la grâce propre de Noël. C'est ainsi que se termine le chapitre sur le temple mystique. Il se termine en prière. Alors après cet intermède, cette parenthèse, nous allons pouvoir retrouver la méditation de Jean Danielou sur les évangiles de l'enfance et retrouver sa très belle méditation de l'événement de l'Annonciation à la Vierge Marie. Nous avons jusqu'ici examiné le récit de l'Annonciation du point de vue de l'élection de Marie. Alors ce mot « l'élection de la Vierge Marie » provient à la fois de la liturgie et de la spiritualité ignatienne qui imprègne totalement la pensée de Jean Danielou. L'élection de Marie, comment elle est choisie par Dieu et comment elle choisit Dieu. Dans le choix du titre du gros livre qui raconte sa vie, le cardinal Jean-Marie Lustiger, dont nous avons entendu qu'il était un disciple du temps de la vie à la Sorbonne de Jean Danielou, puis ensuite un ami et un admirateur, le cardinal Lustiger choisit comme titre « Le choix de Dieu ». C'était un homme extrêmement subtil et fin, autant qu'intelligent. Et le choix de Dieu, c'est en même temps le choix que Dieu a fait de Jean-Marie Lustiger et le choix que Jean-Marie Lustiger a fait d'obéir à Dieu, d'écouter Dieu, de rencontrer Dieu et surtout d'aimer Dieu. De la même manière, l'élection de la Vierge Marie, selon que nous suivons le chemin de la liturgie qui nous parle davantage du fait que Dieu l'a choisi entre toutes les femmes, que Dieu l'avait choisi d'avance et qu'il l'a choisi d'une manière efficace, en particulier dans l'événement de l'Annonciation. Ça, c'est la liturgie. Dans la perspective proprement ignatienne, eh bien, c'est la Vierge Marie qui fait élection et qui décide de répondre oui à la vocation que Dieu lui offre, puis de répondre oui pour remplir cette vocation jusqu'au bout, et de répondre oui tout le temps. Et pour la Vierge Marie, tout le temps, parfaitement et saintement et vertueusement, sans aucun péché, sans aucune manière de retarder la grâce aussi. L'élection de la Vierge Marie. Et cette élection de la Vierge Marie, c'est une donnée fondamentale du récit de l'Annonciation. Mais il n'y a pas que ce mystère de l'élection de la Vierge Marie, il y a un autre point de vue, c'est celui du contenu. Le contenu des révélations qui sont faites à la Vierge Marie. C'est-à-dire les événements précis dans lesquels elle est appelée à jouer un rôle. Lorsque nous cherchons à méditer cet évangile de l'annonce faite à Marie, voilà qu'il y a une espèce de plan qui nous est proposé par Jean Danielou, qui nous dit, ben, et si vous commenciez par regarder la Vierge Marie elle-même, ce que nous savons d'elle, sa personnalité, sa situation dans la vie, ensuite, regardez ce qui se passe, comment Dieu l'a choisie et qu'elle répond au choix de Dieu en choisissant Dieu, et ensuite, eh bien, penchez-vous sur le contenu de ce qui est dit par l'ange, qui fait partie du récit de l'Annonciation et qui va continuer à éclairer le rôle unique, le rôle tellement exceptionnel et unique de la Vierge Marie dans le mystère du salut, dans l'histoire du salut. Et bien voilà que nous sommes amenés ainsi à étudier la seconde partie du récit, tel qu'il nous est présenté, tel que nous l'entendons dans beaucoup des fêtes liturgiques de la Vierge Marie. Et cette seconde partie est riche du contenu des révélations que Dieu a décidé d'accorder à la Sainte Mère de Dieu. C'est avant tout la description de Jésus qui est importante dans cette révélation. L'ange décrit ce que sera l'enfant dont Marie sera la maman. Il nous parle de cet enfant qui n'est pas encore conçu et qui, dans l'éternel dessein de Dieu, doit vivre d'une manière particulière sa destinée humaine, sa destinée terrestre. Et là, nous allons retrouver les trois lignes que nous avions déjà aperçues en étudiant la vocation de la Vierge Marie. La première, c'est le fait que Jésus sera le Messie. Et voilà que la très sainte Vierge Marie apprend que son enfant sera le Messie. Une fois qu'on a dit cela, le Messie, à la fois on a dit une grande partie du mystère, et il y a tellement de choses au sujet du Messie dans l'Ancien Testament comme dans la piété juive contemporaine de la Vierge Marie, que finalement on a peu dit. On a beaucoup dit et on a peu dit. Alors il faut arriver à comprendre quel est ce Messie dont parle l'archange Gabriel. C'est bien cela que nous devons essayer de scruter pour aller dans toute l'épaisseur et la profondeur de l'Évangile. L'essentiel de ce que nous devons retenir est contenu dans les mots de l'archange. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Nous souvenons que ces paroles sont entrés dans notre je crois en Dieu. Son règne n'aura pas de fin. Il régnera éternellement. Son règne n'aura pas de fin. En bonne technique de parallélisme biblique, on dit un peu deux fois la même chose, comme dans toutes les belles poésies, de deux manières différentes pour faire le tour au maximum de la vérité qu'on veut exprimer. Son règne n'aura pas de fin. Ça donne le vertige. Le Messie, pour que son règne n'ait pas de fin, il faut que lui-même n'ait pas de fin. Il faut que, et pour que son règne soit éternel, si le mot éternel veut dire quelque chose, il faut que lui-même soit éternel. Donc ce Messie n'est pas celui qu'on attendait, parce qu'on n'a jamais dit du Messie qu'il était éternel, ou qu'il était l'éternel avec un E majuscule. L'affirmation ne fait donc aucun doute. Le fils de la Vierge Marie sera ce descendant de David annoncé par le prophète qui va établir définitivement le règne de Dieu. Tout est dans l'adverbe, définitivement. Soit il s'agit simplement d'une façon de parler, définitivement voulant dire simplement de façon durable, donc on exagère un peu. Soit il s'agit vraiment d'un règne définitif, un règne qui n'aura pas de fin. L'attente de ce personnage humain, parce qu'on pensait qu'il était humain, le Messie, celui qui a reçu l'onction par excellence, cette attente était familière chez les Juifs pieux de l'époque de la Vierge Marie et du Seigneur Jésus. On trouve des échos de cette attente dans des écrits juifs de l'époque, les psaumes de Salomon, ce qu'on appelle les psaumes de Salomon, qui ne sont pas nos psaumes, ou un récit comme l'Assomption de Moïse. Les groupes spirituels de l'époque du Seigneur Jésus, puisqu'il y avait quelque chose qui ressemblait presque à la vie monastique, avec une très très intense spiritualité, beaucoup d'ascèse, beaucoup de jeûne, beaucoup de mortification, beaucoup de lecture de la Bible, bien sûr. Donc il y avait ces groupes spirituels qui attendaient un Messie qui était un Messie royal, donc fils de David, et en même temps, et c'est là où il y a une nouveauté très importante, un Messie sacerdotal, qui ressemblerait un peu au grand prêtre Melchisédek, au prêtre Melchisédek, pardon. Un Messie à la fois royal et sacerdotal. Et on ne savait pas si le Messie serait et royal et sacerdotal, ou bien s'il serait l'un ou l'autre. Est-ce que le Messie serait roi avant tout, ou prêtre avant tout? Et certains allaient jusqu'à dire qu'il serait à la fois roi et prêtre, à la fois celui qui établit pour toujours le royaume de Dieu et celui qui donne le culte parfait, l'adorateur parfait de Dieu, qui communique l'adoration parfaite à ceux qui lui obéissent, à ceux qui rentrent en communion avec lui. Dans l'évangile lui-même, nous voyons cette attente du Messie. Les prêtres et les lévites demandent à Saint Jean-Baptiste, es-tu le Messie? La Samaritaine demande à Jésus, je sais que le Messie doit venir, sous-entendu, es-tu ce Messie qui doit venir? L'annonce de l'archange Gabriel à la Vierge Marie nous apporte deux vérités essentielles. La première, c'est que son enfant sera le Messie attendu. C'est ce que nous venons d'écouter intensément. Il ne s'agit donc pas simplement de la croyance en l'existence d'un Messie qui va venir, il s'agit de l'affirmation que le jour de la naissance du Messie est arrivé. Donc, on n'est pas simplement dans une espérance. L'archange lui dit, Ça y est, le jour de la naissance du Messie est proche. Et nous sommes en présence de ce qui constitue notre affirmation chrétienne de la foi comme telle. La foi au Messie est commune aux Juifs et aux chrétiens. La question de savoir si le Fils de Marie est le Messie est ce qui sépare les Juifs des chrétiens. Cela reste vrai après toutes les explications sociologiques, politiques, psychologiques et psychanalytiques qu'on voudra. Il y a ce choix de l'ordre de l'élection, et nous pouvons penser à nouveau au cardinal Lustiger, ce choix entre dire que Jésus est le Messie ou bien affirmer que Jésus n'est pas le Messie de Dieu. Il y a ensuite une autre vérité, c'est que le Messie sera vraiment un descendant de David. Cette affirmation, du point de vue de Marie, de la Vierge Marie, constitue un vrai paradoxe. Dire que le Messie sera fils de David, c'est dire qu'il sera fils de Joseph, parce que la majeure partie des savants, des spécialistes, affirme et croit vraiment très très fermement que Saint Joseph est descendant de David, alors que la Vierge Marie n'est pas descendante de David. Et que c'est sortir du terrain très ferme de la vérité des évangiles, de la vérité historique, que de vouloir affirmer que la Vierge Marie est fille de David. Et voilà où est le paradoxe pour la Vierge Marie, lorsqu'elle entend les paroles de l'archange Gabriel. C'est que elle est dans la virginité consacrée, elle est dans son propos de virginité, et ainsi le Messie ne peut pas être le fils de Joseph, parce que Dieu lui a demandé de lui consacrer sa virginité et qu'elle ne connaît pas d'homme, elle ne connaît pas Joseph. Il n'y a pas de commerce conjugal entre la Vierge Marie et Saint Joseph. Alors comment le Messie pourrait-il être descendant de David si il n'est pas le fils de Saint Joseph? Et la Vierge Marie commence à être conduite à poser la question à l'archange. Comment cela va-t-il se faire? Il faut qu'il soit fils de David et il ne peut pas être le fils charnel de Saint Joseph. Nous retrouvons cette affirmation dans la généalogie de Saint Matthieu, qui volontairement rattache Jésus à David par Saint Joseph et qui en même temps affirme que Jésus est conçu par Marie de la puissance du Saint-Esprit comme un nouveau commencement de l'humanité. Cette conception virginale du Seigneur Jésus exprime un commencement absolu, totalement nouveau, de l'humanité sauvée, rachetée et transformée. Cette question de la relation du Seigneur Jésus à David est au cœur de tout l'épisode. En même temps, elle suscite énormément de difficultés. Et à cause de cela, nous ne pouvons pas imaginer que ce soit une invention de la tradition après la rédaction des premiers textes évangéliques, ou que ce soit une invention de l'écrivain Saint-Luc. Nous pouvons bien penser que nous sommes là face à quelque chose qui est vraiment l'histoire du Seigneur Jésus. Il est fils de David et il est essentiel pour sa mission et pour son être qu'il soit fils de David. Nous savons, nous, parce que nous avons été enseignés sur le mystère, comment il peut être vraiment fils de David en étant uniquement fils de Dieu. C'est le mystère de l'opération du Saint-Esprit, de la conception virginale du Seigneur Jésus dans le sein de la Vierge Marie. Il y a un temps de cette forme d'adoption complète du Seigneur Jésus par Saint Joseph. Il n'y a pas d'invention de la part de Saint Luc. Mais Saint Luc nous présente le mystère avec son génie propre. Nous entendons l'archange dire « Il sera grand ». Et cela a déjà été dit au sujet de Saint Jean-Baptiste. Lorsque nous entendons dire « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père », le Messie régnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Nous voyons des citations du livre d'Isaïe qui sont chères à Saint Luc. C'est un procédé qui est très voisin de ce que nous trouvons dans les cantiques de Saint Luc. Le cantique du Benedictus et du Magnificat et celui des Complis. Du Nunc Dimittis, maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Il s'agit d'utiliser des citations importantes pour dire une vérité essentielle. Et là, nous suivons Saint Luc qui essaye de nous dire, comme il peut, que le Messie est Jésus, que Jésus est le Messie, qu'il est prêtre, qu'il est roi, qu'il est fils de David, et que tout cela s'accomplit grâce à la Vierge Marie. L'Annonciation ne porte pas seulement sur le fait que le fils de Marie est le Messie, mais l'Annonciation nous parle aussi d'une révélation au sujet de la venue de l'Éternel, de la venue de Dieu lui-même, du Tout-Puissant, la venue du Créateur à la fin des temps. Et la merveille de ce récit de l'Annonciation, c'est de petit à petit nous faire comprendre que les deux vont se passer en même temps, que la venue du Messie va être en même temps la venue de Dieu. Et c'est là aussi le mystère de notre foi chrétienne. Les prophètes annonçaient la venue d'un homme élu de Dieu un jour, le Messie, et les prophètes annonçaient aussi, alors nous pensons à tous ceux que nous avons lus grâce à la liturgie, que ce soit le prophète Joël, que ce soit les prophéties contenues dans les derniers textes de la Bible, Malachie, Zacharie, les prophètes annoncent la venue de Dieu à la fin des temps. Alors, il y a une relation entre les deux, mais on n'avait pas soupçonné que les deux se passeraient en même temps, la venue du Messie et la venue de Dieu. D'ordinaire, la venue du Messie apparaissait comme l'inauguration d'un temps de paix sur la terre, un royaume messianique. Et après ce temps de paix, peut-être très longtemps après, il y aurait la venue du jugement de Dieu, qui, Dieu en personne, établirait les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Mais jamais dans l'Ancien Testament, nous ne voyons apparaître l'idée que ce serait un seul et même être qui serait à la fois le Messie et Dieu lui-même. En même temps, le Messie attendu et le Dieu advenu. L'avènement du Messie en même temps que l'avènement de Dieu. Et c'est une bonne partie de ce que nous vivons pendant ce temps de l'Avent, de ce que l'Avent essaye de faire entrer dans notre cœur que toutes ces prophéties du jugement dernier, du jour de Dieu, de la fin des temps, de l'accomplissement total de l'histoire, ces prophéties doivent être associées aux prophéties concernant le Messie. Et lorsque Jésus va naître, c'est Dieu en personne qui va naître sur notre terre. Et cela apparaît dans le récit de l'Annonciation. Ce jour de l'Annonciation, ce jour où la Vierge Marie dit oui et où l'histoire du salut atteint son sommet, eh bien, c'est le jour à la fois de la venue du Messie et de la visite de Dieu lui-même. Oui, nous croyons que Jésus est à la fois le Messie attendu et le Dieu advenu. Telle est notre foi.
Chers auditeurs, c'était notre émission Dieu tellement vivant. Vous étiez avec le Père Nicolas Sautreau. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.